Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de B2B Stories. Aujourd'hui, nous allons parler de dérives et de l'avenir des réseaux sociaux en B2B, mais surtout de celui de LinkedIn. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir trois experts du sujet. Fabien Bilat, conseiller en communication et stratégie digitale, Yann Gorenec, CEO de l'agence Visionary Marketing, et Jonathan Chan, chef de projet chez Dentsu e-Prospect. Au fil des années, les réseaux sociaux en B2B se sont imposés comme des leviers indispensables pour communiquer auprès de ses cibles. LinkedIn, sans réel concurrent direct, y règne, lui, en maître absolu. Cependant, entre méconnaissance approfondie de l'usage des réseaux sociaux, absence de formation au social selling, spam ou encore détournement pour exister, on assiste à de nombreuses dérives qui pourraient remettre en cause leur légitimité et leur utilisation, et plus spécialement celle de LinkedIn. Comment allez-vous, mes amis ?
Super bien, merci Mohamed de l'invitation.
Bien, merci de m'accueillir.
Alors Jonathan, tiens, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, sur la genèse des réseaux sociaux ?
En fait, ça n'a pas été créé par Facebook. Avant, c'était très déstructuré. Donc, on revient en 1997 où il y avait l'existence des plateformes communautaires, des plateformes de blogging comme Weblog où l'échange de communauté se faisait à travers les commentaires, mais aussi des mails comme Hotmail ou bien sûr les chats qui se souviennent par exemple de MSN Messenger. Du coup, quand on va parler des réseaux sociaux, faut penser de manière plus globale. C'est plus, on va parler d'un échange entre communautés, des interactions qui se font entre eux. Donc, au début, ces interactions de B2B se faisaient surtout dans le réel, donc avec des salons, donc de manière centralisée entre communautés. Mais après, au fur et à mesure que le digital a évolué, les plateformes ont peu à peu pris la main sur le sujet. Donc, du coup, ça a centralisé tous les échanges. Donc, on a eu en premier LinkedIn qui s'est créé en 2002, puis qui a beaucoup évolué, Facebook en 2004 et Twitter en 2007. Ces plateformes, par leur facilité d'utilisation, un algorithme qui trie les contenus, la facilité de créer un contenu permet d'étendre le nombre de fonctionnalités et le nombre d'utilisateurs, particulièrement en B2B. Alors, sinon, dans le secteur du B2B, on constate que c'est plutôt LinkedIn qui est la principale plateforme d'utilisation à l'heure actuelle. Après, je considère, pour ma part, ça dépend des études, que Twitter et Facebook sont à peu près au même niveau d'utilisation. Facebook, là où on a une utilisation qui n'est pas élevée, le B2B, il y a beaucoup de professionnels de B2B qui y sont. Alors que Twitter, on est plus sur des professionnels assez aguerris, ceux qui utilisent beaucoup les médias. Bah là, le secteur B2B est plutôt assez fort.
Toi, tu parles de Twitter, c'est quand même un peu plus difficile d'avoir une caisse de résonance sur Twitter que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on pose un post et on sait à peu près combien de vues, si on est un petit peu habitué à LinkedIn, on va obtenir. Et sur Twitter, c'est un peu plus aléatoire. Je me trompe ou pas ?
Alors moi, j'utilise les deux. Donc, je dirais que c'est plus de la compréhension des algorithmes. Sur Twitter, ta durée de vie, par exemple, c'est au bout de 2 heures, tu peux faire 80% d'impression. Alors que sur LinkedIn, tu as 24 heures pour faire la majorité des impressions. Donc, cela dépend. Mais par exemple, sur Twitter, ce qui peut fonctionner, c'est rebondir sur l'actualité, c'est réagir rapidement à chaud. Alors que sur LinkedIn, ce qui va fonctionner, c'est plutôt de plus réfléchir sur comment tu vas utiliser ton format, comment tu vas développer ton storytelling, comment tu vas inciter à la discussion aux personnes. Donc, non, c'est plus la particularité des plateformes.
Ouais, c'est comprendre en fait le vrai fonctionnement des plateformes et garder en tête que Twitter et LinkedIn sont deux plateformes qui fonctionnent complètement différemment.
Oui, à juste rajouter, c'est que ce que ne comprend pas la plupart des personnes, c'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à être hyper visibles, à la fois par exemple sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, c'est que la plupart des personnes ne différencient pas leur message. Ils ont toujours une stratégie propre qui vont dupliquer sur les réseaux sociaux. Mais en contraire, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avoir une stratégie propre sur chacun des réseaux sociaux et des messages et des formats variés en fonction de ces réseaux.
Ouais, mais c'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Yann, tu confirmes ?
Je reviens un peu à la question. On parle de médias sociaux pour parler à des cibles. Oui. Pour ma part, en content marketing et en marketing du bouche à oreille, je n'utilise pas ce mot de cible. J'utilise, d'ailleurs, Joe Pulizzi n'utilise pas non plus. On utilise le mot d'audience. Mmh. C'est pas innocent et on pourra y revenir tout à l'heure. Les communautés en ligne, je suis d'accord avec Jonathan, c'est quelque chose qui est très vieux en fait. Ça date même des années 70-80 pour les premières. Il y a un célèbre bouquin qui a été publié en 97 qui s'appelle Net Gain de Hegel and Armstrong, qui raconte l'histoire d'ailleurs des communautés en ligne. Mmh. et qui est très intéressant. Enfin, bien entendu, aujourd'hui, il est un peu dépassé, mais il est intéressant d'un point de vue historique. On pourrait croire que ce sont des choses qui sont récentes et qui datent des années 2004, hein, puisque le terme de Web 2.0 a été inventé en 2004 par O'Reilly. Mais en fait, ce sont des choses qui sont largement antérieures. Et Jonathan a eu raison également d'insister sur l'arrivée de LinkedIn en 2002. Non, c'est pas 2003 d'ailleurs, mais enfin, c'est, peu importe, c'est un des premiers réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, en tout cas, qui soient arrivés sur le terrain, puisque Facebook est arrivé en 2004 et Twitter vers 2006, je crois. Donc, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que un des premiers réseaux sociaux mainstream soit arrivé si tôt et quasiment avant les autres, ouais. Avant le B2C. C'est, ouais. Quelque part, c'est pas innocent. Alors, pour je dirais, les différents réseaux et les différentes façons de les aborder, oui, je suis bien sûr d'accord avec Jonathan sur l'aspect tactique, mais en fait, ça va bien au-delà de ça. Je vous incite à aller voir la dernière analyse de notre ami Frédéric Cavazza sur son blog, sur son point annuel sur les réseaux sociaux, où il décrit des réseaux qui se stratifient par différentes niches, par âge, par utilisation, par groupe de population, les hommes, les femmes, les machins. Ça, il y a vraiment une stratification des médias sociaux qui, finalement, c'est assez amusant, font tous à peu près la même chose, se copient tous les uns les autres, mais qui, finalement, se séparent en différents types d'usages. Et bien sûr, LinkedIn s'est imposé parmi les professionnels de façon quasi unilatéral, puisque tous les réseaux sociaux professionnels, notamment Viadeo, Xing en Allemagne, qui survit un tout petit peu en Allemagne et en Autriche, mais finalement LinkedIn s'est imposé partout dans le monde, et c'est pour ça qu'il continue de croître, puisqu'il est, en fait, il est tout seul.
Je vais rebondir là-dessus. Fabienne, on t'a pas encore entendu. LinkedIn a réussi à s'imposer, comme le disait à l'instant Yann, en quelques années, et surtout il a balayé d'un revers de main son concurrent français Viadeo et l'allemand Xing. Alors l'allemand Xing existe toujours sur la communauté germanophone. Quelle est la recette, selon toi, du succès de LinkedIn?
On faisait un petit peu un historique tout à l'heure, justement, avec les premiers réseaux sur lesquels on était, qui d'ailleurs ont servi un petit peu de mécanique d'usage, finalement. Facebook, avec un niveau un petit peu lambda, mais nous permettait un usage facile, alors même si on était en parallèle avec LinkedIn, qui était quand même plus professionnel. Et donc ça, je pense que c'est intéressant de reconsidérer aussi le contexte de l'époque. Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, Yann, avec ton bouquin qui était peut-être un petit peu ancien, n'empêche qu'on en revient toujours à des communautés, des échanges, du social, du conversationnel, et si finalement les réseaux sociaux fonctionnent, c'est bien parce qu'ils se transposent à une réalité, et d'ailleurs sans réalité, il n'y aurait pas de virtualité non plus. Alors, on avait travaillé justement sur une émission avec le bouquin de Bruno Patino, et notamment aussi cet élément qu'on peut ajouter sur un petit peu l'excitation et cette notion de récompense aléatoire quand on est sur les réseaux en général, alors peut-être un peu moins sur LinkedIn, encore, quoique on a tendance à liker un petit peu en meute aussi, mais il y a quand même ce sujet un petit peu neuroscientifique, je ne m'avance pas trop, hein, je prends des éléments qui ont déjà été étudiés, sur la dopamine notamment, et toute cette mécanique qui entraîne l'internaute à liker de façon un petit peu compulsive. En fait, c'est un cercle plus ou moins vertueux où on nous oblige un petit peu, on nous pousse à liker par mécanique, en fait. Et je pense que LinkedIn a réussi, contrairement à Viadeo ou à d'autres, rappelle-toi aussi, rappelez-vous de copaindavant.com qui à la base, était quand même un super engouement parce qu'il y avait de l'affectif, il y avait du social, on retrouvait nos copains de lycée et d'études supérieures. Et en fait, pourquoi on s'interrogeait, mais pourquoi ils n'ont pas su perdurer? Alors, c'est peut-être une question d'ergonomie, d'interface, mais de non-évolution par rapport à, justement, une communauté qui a toujours faim d'avoir des évolutions. Alors, c'est pour ça qu'on dit LinkedIn a copié un tel, etc. Mais je crois que c'est un petit peu le propre de tout le monde, de toute façon, de tout produit, et encore plus des réseaux, de tester, et d'ailleurs laisser tomber aussi beaucoup de fonctionnalités, on le voit régulièrement quand on est beaucoup dessus, de façon à accrocher la communauté et à nous rendre fidèles. Donc, le nerf de la guerre, finalement, ça reste quand même l'engagement avec les algorithmes ou pas, qui d'ailleurs nous font bifurquer de nos intérêts premiers, mais en tout cas, l'engagement de la communauté, à mon avis, pour moi, c'est l'essentiel et c'est ce qui fait le fondamental et la réussite d'un réseau social dans sa pérennité.
Mmh. Yann, est-ce qu'il n'y a pas des fausses croyances au sujet de LinkedIn? Est-ce que c'est réellement un réseau 100% B2B ou est-ce que il n'a pas cette tentation à aller s'ouvrir sur les plates-bandes de ses confrères qui sont, eux, vraiment des réseaux B2C? C'est une question un peu compliquée, mais on constate tous les jours. Hein. Il y a des abus sur LinkedIn.
Oui, je déplore effectivement la perte un petit peu d'ADN de LinkedIn, mais ça vient de la communauté aussi. Quand tu vois des gens, des femmes ou n'importe qui se filment en vidéo sur la plage en disant « je ne me suis pas déconfinée, je suis restée chez moi », etc. Et tu as 2000 likes. Moi, j'avoue que je me dis « mais à quoi bon poster une information sur le numérique si finalement se shooter soi-même cheveux au vent ça fait bien plus d'engagement ?» Effectivement, je m'interroge tous les jours.
C'est marrant parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tous les médias sociaux se sont copiés. Peut-être même qu'un jour, LinkedIn finira par recopier TikTok. Et ça n'empêche que ça restera quand même un réseau social de professionnels. Il se regroupe autour d'une communauté qui s'est créée, un peu spontanément d'ailleurs, un peu au début. Et il faut revenir, à mon avis, au début de cet outil. Pour se remémorer à quoi il servait. Je pense qu'on a un peu oublié, en fait. On a l'impression d'être dans une sorte de Facebook et finalement, on est attiré par des événements personnels et des promotions de personal branding qui sont peut-être intéressantes, mais qui finalement n'occultent en aucun cas l'intérêt premier du service. Hein, qui était quand même, rappelons-le à l'origine, fait pour créer des liens professionnels entre les personnes, pour leur permettre de faire ce qu'on appelle en bon français du networking, ou en canadien du réseautage, c'est beaucoup plus beau. Et c'est ça l'usage premier de LinkedIn, et c'est très important de le comprendre parce que c'est comme ça que fonctionnent les médias sociaux, ils fonctionnent sur le principe qui avait d'ailleurs été créé par d'autres réseaux sociaux antérieurs à LinkedIn, comme Friendster, par exemple. On appelait ça le modèle « friend of a friend », hein, « les amis de mes amis sont mes amis ». Et c'est vraiment à ça que ça sert, un réseau social, et notamment un réseau social professionnel. Ça sert à agrandir son cercle de connaissances. Et ce sont des choses qui sont pratiquées d'ailleurs en dehors des médias sociaux. Hein. On n'a pas besoin des médias sociaux pour faire du networking. On fait du networking aussi de personne à personne ou tout simplement avec un téléphone et quelques amis pour pouvoir rencontrer un maximum de gens parce que c'est au travers du networking qu'on va créer des opportunités, qu'on va croiser des intérêts, qu'on va ensuite peut-être éventuellement, en fin de compte, c'est ça qui est important, en fin de compte, faire du business. Mmh. Et là, c'est pour ça que je pense qu'il y a une dérive complète. En fait, on ne sait plus. Je pense que c'est quelque chose que je rencontre beaucoup dans les classes, mais aussi dans les entreprises. C'est qu'à la limite, l'équipe ayant perdu de vue l'objectif redoubla d'efforts. Donc, on peut discuter ad vitam de la Facebookisation de LinkedIn, mais en gros, à quoi ça sert? Pourquoi on est dessus? Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est là uniquement pour faire sa pub? Moyennant quoi, Jonathan nous l'a dit, il y a relativement peu de personnes qui y arrivent parce que peu d'entre elles soit ont le temps, soit même l'intérêt soit arrivent à comprendre comment fonctionne l'outil. Donc, il y a quelques individus qui arrivent à truster l'ensemble du réseau et à faire des scores absolument gigantesques. Mais en gros, cet outil, il peut servir à tout le monde, mais il faudrait se reposer la question de savoir à quoi ça sert.
Ouais.
Et là,
on arrive
à toucher les dérives. Ouais. Parce que comme on ne sait plus à quoi ça sert, et qu'on a beaucoup de commerciaux, pour pas dire une immense majorité de commerciaux qui sont un peu désœuvrés, parce que vendre, c'est difficile. Hein, quiconque a fait de la vente sait que c'est difficile. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus d'offreurs, il y a de plus en plus de bruit et que les acheteurs aussi sont de plus en plus sollicités. Donc, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire, nos acheteurs? Ils ont tendance à fermer les barrières pour éviter d'être ennuyés et faire ce que fait tout bon acheteur, c'est-à-dire renverser le rapport de force,
oui.
Et faire en sorte que justement on puisse pas les contacter et que ce soit eux qui mènent la danse et qu'ils aient toujours 5 minutes d'avance sur le vendeur. Or, ce qui se passe justement dans LinkedIn, et c'est là qu'on a des dérives et que là on a une incompréhension sur ce à quoi ça sert, c'est que on a ce que j'appelle, alors c'est pas très gentil, hein, je sais, je me fais parfois insulter là-dessus, mais c'est ce que j'appelle les commerciaux bourrins qui viennent labourer le terrain avec leurs gros sabots et leurs grosses charrues et qui viennent casser les pieds à tout le monde en croyant que parce que on crie plus fort, on est mieux entendu. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il suffit de bien articuler et pas forcément besoin de crier plus fort. Et justement, là, il y a un souci parce que ce réseau qui à l'origine était fait pour créer des liens, et c'est créer des liens, c'est ça qui à terme amène du business. Donc c'est pas un outil qui n'est pas fait pour amener du business, mais qui est fait pour amener du business à terme. Donc il demande certains préliminaires, si je puis dire. Et bien en fait, on a une complète dérive par des personnes qui utilisent, qui sont désœuvrées, qui ne savent pas trop comment faire, qui n'arrivent plus à joindre les décideurs et qui pensent que parce qu'ils ont un outil électronique, eh ben donc c'est tout à fait facile parce que au lieu de se prendre des râteaux au téléphone, il suffit de bourriner sur LinkedIn et on achète Sales Navigator, on casse l'épée à tout le monde et on vient présenter ses produits en rasant tout le monde. Et ça, c'est très, très grave. Parce que si on se souvient un peu, c'est comme ça que Viadeo a disparu. Ils ont laissé les bourrins déjà embêter tout le monde. Il n'y avait absolument aucune règle sur Viadeo. Tout le monde pouvait embêter tout le monde. Ce qui fait que tous les décideurs sont partis très rapidement. Et si ça continue, c'est ce qui arrivera aussi sur LinkedIn.
Mais Yann, alors moi j'ai une question plus qui reprendrait le concept de la poule et de l'œuf parce que je suis mille fois d'accord et j'adhère complètement avec ton propos. On s'est abonné parce qu'on voulait des contacts qualifiés, de l'information qualifiée et tout ce qui va avec aujourd'hui. Mais puisque l'évolution se fait avec justement une communauté, est-ce que le réseau, c'est une question hein, parce que évidemment ma réponse elle est déjà vue, mais est-ce que le réseau social doit évoluer avec la communauté aussi bourrin soit-elle ou est-ce que qui peut recadrer ça parce que si les commerciaux continuent à nous envoyer des DM à la noix ou à balancer des posts sans intérêt qui va reprendre la main finalement, est-ce que c'est la qualité, comment la qualité peut reprendre la main puisque la communauté n'est pas forcément qualifiée.
J'aurais tendance à dire si un jour LinkedIn venait à disparaître, ce qui est possible hein. C'est peu visible aujourd'hui, mais c'est possible. Ça serait très grave, mais ça ne serait pas désespéré. Il y a une étude de Keller Fay qui a été menée il y a quelques années, 3-4 ans, qui a été reprise par Jonah Berger dans Contagion, qui décrit l'importance de l'Internet, en général l'Internet, dont les médias sociaux, hein, donc LinkedIn, c'est une toute petite partie de ça, comme représentant moins de 10% du bouche à oreille. Donc, il y a d'autres méthodes, il y aura d'autres outils. Si les bourrins continuent à bourriner, ben, c'est pas la fin du monde. Ils scieront la branche sur laquelle ils seront assis. Déjà aujourd'hui, vous pouvez chercher les DSI qui sont joignables dans LinkedIn. Ben, il y en a quasiment plus parce qu'ils sont tous partis. Ils ont tous verrouillé leur profil. Ils interdisent à quiconque de les contacter. Donc, le problème, il est réglé. Donc moi, je pense qu'il faut revenir On parle de communauté, hein, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'une communauté? Ça peut paraître idiot, mais la question, elle est loin d'être idiote. Moi, je décris la communauté comme étant une communauté comme étant quelque chose qui regroupe des individus autour d'un intérêt ou d'une passion commune. Donc, le fait qu'il y ait un produit qui soit sorti n'est pas une passion commune. Le fait qu'il y ait une entraide entre les membres et une reconnaissance de cette entraide au travers d'un bénéfice commun. C'est-à-dire que si je viens m'insérer dans une communauté, qu'une marque ne peut pas créer, d'ailleurs elle peut susciter une communauté, elle ne peut pas créer une communauté, ça n'existe pas. On peut la susciter, on peut la favoriser, on peut l'encourager. Et tu disais plein de mots, sauf celui de créer. Donc si je veux fédérer cette communauté, il va falloir que je m'intéresse aux autres. Si je ne m'intéresse pas aux autres, qu'est-ce qui va se passer? Rien. La communauté ne va pas disparaître pour autant. Les gens qui ont des intérêts communs se retrouveront sur d'autres sujets. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'arriver dans le domaine grand public. Frédéric Cavazzone nous a gratifié d'une analyse, encore une fois, cette année très intéressante. Il décrit le slow networking, je crois qu'il appelle ça, qui est en fait avec des outils qui sont destinés à recréer des médias sociaux, mais privés. Donc, c'est pas grave, j'ai moi-même participé avec Visionary Marketing. On a travaillé sur un projet qui s'appelait Flux Aqua pour une spin-off de Veolia. C'est pas véritablement des médias sociaux au sens LinkedIn du terme, c'est un forum de professionnels, un peu comme Stack Overflow, sur des professionnels de l'eau. Donc, c'est des gens qui sont ni sur LinkedIn, ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Internet, d'ailleurs, sauf à titre personnel. Et pourtant, on a créé une communauté, enfin, on n'a pas créé, on a fait, comment dire, rendu possible la visibilité d'une communauté, encouragé une communauté autour de l'assainissement de l'eau. Donc, quand même, c'est quelque chose d'assez pointu, hein, en B2B, en moins de 2 ans, en partant de zéro, en commençant par un forum vide, 0 questions, 0 réponse. Vous pouvez voir aujourd'hui, il y a près de 20 000 professionnels de toutes les entreprises, de tous les acteurs, de toutes les mairies, de toutes les collectivités locales, de toutes les sociétés qui sont responsables des assises. Donc, on peut recréer un environnement et même beaucoup plus propice au partage et à la communauté sur un autre espace. Je vais donner un autre exemple. Alors ça, c'est du grand public, mais c'est pas grave. C'est le même principe. On peut prendre, par exemple, GiveGaff, qui est un opérateur télécom britannique qui appartient à O2 maintenant. Alors aujourd'hui, ils ont un peu grossi, mais pendant de nombreuses années, ils étaient 7. Oui. Et leur métier, c'était de vendre. On peut pas avoir un produit plus chiant. En fait, ils vendaient des cartes SIM. Et pourtant, ils étaient tous les ans votés comme étant le meilleur télécom de l'année, parce que tout bêtement, ils font leur marketing avec leurs clients.
Merci beaucoup, Yann, pour toutes ces précisions. Des gens qui ont des choses en commun et qui doivent s'entraider mutuellement. Et s'entraider mutuellement, c'est vraiment ce qui fait la force d'une communauté. Alors que aujourd'hui, on constate que les gens viennent plus chercher des choses ou vendre des choses et ne sont pas forcément dans l'esprit d'entraide. En tout cas, j'aimerais qu'on enrichisse un sujet qui me semble très très important sur l'évolution de LinkedIn. Et je vais poser la question à Jonathan et à Fabienne. LinkedIn ne serait-il pas en train de singer Facebook et ses bonnes recettes pour fidéliser ses membres?
Alors moi, je pense que de toute façon, les pratiques en B2B vont au fur et à mesure s'harmoniser pour se rapprocher du pratique en B2C. On a à peu près 2 à 3 ans d'écart. Ce que je peux dire sur le modèle actuel de LinkedIn, c'est qu'il fonctionne de la même chose, de la même manière que sur Facebook. Et en fait, c'est une licenciation. Parce que là, en B2C, on va chercher beaucoup des publications qui font du divertissement. Donc, un modèle plutôt basé sur les likes est plus judicieux. Alors que sur LinkedIn, un modèle des likes qui est un peu moins judicieux. Puisqu'en fait, finalement, ce que les gens recherchent aussi, certes, il y en a certains qui veulent du divertissement, on cherche aussi du fond. Or, ce fond n'est pas récompensé par le fait de récolter des likes. Donc, du coup, c'est ce que disent Yann ou Fabienne, c'est que on a les posts plutôt démagogiques vont ressortir en premier par rapport à des posts qui sont plus par rapport au fond. Je constate quand même que LinkedIn a évolué puisqu'on a l'instauration du dwell time qui est le temps passé sur la publication. Mais à l'heure actuelle, les membres, ou les bourrins, si vous les appelez comme ça, ont toujours un temps d'avance par rapport à l'algorithme.
Très intéressant ce que tu dis là. Tu parles de like à chaque fois. On a l'impression que le like, c'est ce qui rend un post populaire, intéressant. En fait, moi, ma question, elle est toute simple. Comment reconnaît-on la qualité d'un post? Est-ce qu'on reconnaît la qualité d'un post à son nombre de likes?
Non, je peux intervenir avec le mentor que
allez.
Je suis.
Vas-y, Fabienne.
Qui est Bruno Friedlanski. Et là, tu te ferais dézinguer comme il faut, Mohamed, parce que Bruno démonte sempiternellement la posture du like en disant commentez, soyez qualifiés un petit peu justement et allez aux commentaires plutôt de liker de façon aveugle et complètement menée par l'algorithme d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on est complètement dépendant et mécanique et robotisé. Donc c'est dommage, gardons cette humanité et notre intelligence en faisant des commentaires plutôt que des likes, d'une part. Ensuite, je voulais revenir aussi à cette idée de B2B et B2C. Moi, c'est comme à l'époque, on disait on se voit IVL, on se voit IRL. Mais on continue à faire des segmentations comme ça qui, pour moi, avec le numérique, et ça fait longtemps que je l'ai intégré, ça n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'on le voit bien, justement, sur les réseaux. Moi, je m'attache plutôt à des gens et j'aime leur marque parce que j'aime les gens et j'ai rencontré le dirigeant et qui m'a accordé de l'accessibilité et du temps, plus que sa marque. Et donc, indirectement, j'aime sa marque et j'aime son produit et j'adhère à 200%. Mais c'est surtout les gens qui m'attachent. Enfin, peut-être que je suis différente et vous pourrez témoigner, mais je pense qu'il faut tenir compte de la porosité de plus en plus, pas forcément bénéfique d'ailleurs, hein. Je pense qu'il faut chacun garder une identité, que l'on soit une marque ou un humain, mais qu'il y ait une porosité de plus en plus grandissante entre le B2B et le B2C.
J'imagine qu'on a en fait deux objectifs qui sont différents. Il y a l'objectif des membres de LinkedIn, d'accord, qui sont là pour faire du réseau, pour promouvoir un produit, un service. Et l'objectif de LinkedIn, lui, faire revenir le plus souvent possible. Et pour créer cet espace d'addiction, eh ben, tous les moyens sont bons.
Non, c'est effectivement, il y a une perversion du système. Elle est naturelle, en fait. À partir du moment où la plateforme a besoin de se financer, n'oublions pas, vous utilisez tous ces outils de manière gratuite. Donc, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est normal. C'est un adage bien connu. Et donc, voilà. Et après, on pourrait. Enfin, pour ma part, d'ailleurs, je le paye, moi, LinkedIn, mais bon, depuis longtemps. Parce que j'estime que c'est un service qui m'est rendu et qui mérite. Et tout service mérite salaire. Maintenant, peut-être qu'on pourrait envisager des systèmes qui soient plus respectueux des utilisateurs, mais auquel cas, qui deviendraient véritablement des produits et des services. Aujourd'hui, ils ne sont pas des services, ce sont des produits en freemium et qui essayent donc de se financer. Pour se financer, eh bien, comme tout système web, il faut beaucoup, en entrée de funnel, il faut beaucoup, 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 beaucoup de visites. Pour pouvoir ensuite les monétiser vis-à-vis d'annonceurs qui sont soit des annonceurs RH, soit des annonceurs tout court, mais surtout des RH pour LinkedIn. Donc forcément, on va vous demander de revenir sur la plateforme et qu'on va utiliser des artifices. Voilà. Et l'aspect du contenu et le fait que LinkedIn essaie aussi de maintenir les contenus captifs sur la plateforme sont liés à cela et c'est compréhensible. On peut ne pas l'apprécier. D'ailleurs, en général, les blogueurs et les influenceurs n'apprécient pas trop parce qu'ils sont assez snobés par LinkedIn. C'est normal. Enfin, c'est normal. En même temps, c'est vrai que c'est quelque part, il y a un peu une injustice. On se dit, on produit du contenu, on contribue à l'enrichissement de la plateforme et en même temps, on veut pas de nous parce qu'il y a une recherche d'exclusivité. Bon, c'est dans la communauté, on travaille en Creative Commons et dans le partage. On donne, et puis après, on reçoit. Sur des plateformes qui sont financées et qui sont, encore une fois, logiquement financées et qui deviennent des plateformes mercantiles, hein, soyons clairs, et il faut qu'elles le restent, sinon elles disparaissent. Eh bien, voilà, il faut rentabiliser. Et pour rentabiliser, eh bien, il faut faire l'inverse. Il faut rendre le contenu captif. Alors. Ce qui fait que, ben, aussi bien Facebook, Twitter que LinkedIn essayent de conserver l'utilisateur le plus possible chez eux, à à barrer les utilisateurs qui essayent de faire des liens d'un outil à un autre, à essayer de pénaliser les utilisateurs qui ont leur contenu en propre, etc. Voilà.
Ouais. Jonathan,
c'est un jeu. C'est
tout. Ouais, c'est un jeu. C'est la course au détournement de. C'est le jeu du chat et la souris. Hein, on cherche. Il y a des algorithmes qui sont repensés quasiment toutes les 48 heures. Je sais plus qu'est-ce qui disait ça. Ouais. Et voilà, c'est le jeu du chat et la souris.
L'utilisateur paye et paye le bon prix. À ce moment-là, il aura un service de bien meilleure qualité. Peut-être qu'il y a la place un jour pour lancer un service. Aujourd'hui, il n'y a pas, hein, parce que c'est vrai que c'est confortable, le service gratuit. Mais bon, voilà, c'est pas trop se plaindre, hein, c'est gratuit.
Ouais. Comment on fait, Jonathan, pour exister sur LinkedIn? On a vu qu'il y avait de plus en plus de monde sur LinkedIn. D'ailleurs, en période de confinement, je crois que le taux d'utilisation de la plateforme, il a augmenté de plus 40%, plus de 50%, quelque chose comme ça. Tout le monde se prête au jeu, tout le monde veut participer, tout le monde veut faire passer ses messages. Comment fait-on aujourd'hui pour exister réellement sur LinkedIn, Jonathan?
Alors, je dirais que le principal écueil, c'est que les gens postent instinctivement sans réelle stratégie sur la chose. C'est-à-dire qu'ils vont poster une ligne ou ils vont poster un lien. Mais ce lien-là, quand on sait que l'algorithme LinkedIn va défavoriser ce format-là, ce reach, en fait. Donc, du coup, forcément, il y a beaucoup de publications qui n'ont pas beaucoup d'impression. Donc, moi, honnêtement, je te dirais d'abord, il faut s'y préparer. C'est-à-dire, en fait, prenez le temps de vous informer à partir d'une veille. Donc, instaurez des veilles dans votre secteur pour savoir un peu sur quel sujet vous pouvez parler. Réfléchissez sur le bon format, puisque à l'heure actuelle, c'est plus les photos, les carousels ou les vidéos. La bonne tonalité, sur la bonne tonalité, après c'est chacun qui voit. Il y en a beaucoup qui font du storytelling, donc je n'apprécie pas tellement. D'autres qui font du bruit, on appelle ça du bruiterie, ça veut dire en fait c'est la manière d'écrire ligne par ligne parce que ça capte plus l'attention qu'un bloc de texte.
Ouais.
Je dirais pourquoi pas, mais alors écrivez par rapport à comme vous êtes en fait, c'est plus votre personnalité qui va toucher votre audience. Donc, et surtout, interrogez-vous sur est-ce que cette publication apporte de la valeur ajoutée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va apporter, qu'est-ce qui va éclairer l'audience et pas seulement se dire que cette publication, ça va juste donner un certain divertissement. N'oublions pas qu'on c'est encore un réseau social de business. Et souvent, c'est vrai que les gens font la gamme entre divertissement et valeur ajoutée.
On voit des gens qui détournent l'algorithme, d'accord, et on parle de pod. Tu peux nous expliquer ce qu'est un pod? Il y a deux types de pods, si j'ai bien compris. Il y a des pods naturels, entre guillemets, et des pods automatisés. Tu peux nous expliquer pour que les gens comprennent pourquoi certaines personnes réussissent à avoir 1500, 2000 likes en une heure ou une heure et demie et d'autres pas.
Alors juste un peu une historique sur un peu la course des engagements. Ouais, au début, forcément, les plateformes c'est adopté par des idéalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent partager, ceux qui veulent échanger avec les gens. Mais au fur et à mesure que la plateforme va gagner en audience, forcément, donc du coup il y aura un enjeu business qui va arriver derrière, et donc il y aura forcément des personnes qui vont dire oui. Comment vais-je faire pour gagner en visibilité? C'est là que disons que l'intérêt général se déprécie par rapport aux égoïsmes de certains. Et donc, par rapport à cet égoïsme, on a l'apparition des pods, qui est une des dérives des réseaux sociaux. Donc, un pod, qu'est-ce que c'est? C'est quand plusieurs utilisateurs vont se réunir à travers un canal pour se liker, s'engager entre eux dans le but de duper l'algorithme et pour monter dans le fil d'actualité. Donc, comme tu disais, Mohamed, on a des pods manuels. Donc, les pods manuels sont les likes se font directement sur un réseau social ou sur un chat, mais chacun des membres peut vérifier manuellement si la publication a l'intérêt et commenter si nécessaire. Et après, mais bien sûr, depuis quelques mois, on a des pods automatiques qui se font soit sur des extensions Chrome, soit d'autres outils. Donc, à partir de là, en fait, on voit, dès qu'on voit une publication, ça sera automatiquement liké. Donc, ça s'appelle un like pod, soit automatiquement commenté, ta commande pod. Et donc, du coup, tu reçois en même pas une heure, tu peux recevoir 400 likes. Et on sait que la vélocité, c'est-à-dire la rapidité d'acquérir des likes sur LinkedIn est importante. Donc, du coup, forcément, ces pods vont acquérir beaucoup de visibilité. Donc, Mohamed, ta question ?
Ouais. Oui, oui, alors il y a deux pods. Le premier pod qui est, on va dire, un pod naturel, un pod communautaire d'entraide. Je considère que le contenu de ce que j'ai poussé est bon, bah, je vais le diffuser à certains de mon réseau en leur disant ça peut intéresser, lis-le, si t'aimes, like-le parce que ça peut profiter à d'autres. Donc ça, c'est complètement naturel, si tu veux. Et je dirais même que c'est positif, c'est positif. Et puis tu as le deuxième pod, et là moi je ne comprends pas. Je vous le dis, je ne comprends pas comment LinkedIn aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il a, ses centaines de développeurs, ne met pas une barrière pour ces pods automatisés. D'accord, qui en fait sont des pratiques entre guillemets anti-concurrentielles, d'accord, et vont valoriser des choses qui n'ont pas lieu d'être.
Je vais dire cash, je déteste ça. Point. C'est-à-dire que ce soit et pardon, mais aussi bien manuel, c'est-à-dire comme j'ai de la visibilité, ouais. Je suis taguée des dizaines et des dizaines de fois, que ce soit sur LinkedIn et sur Twitter tous les jours, ouais. Avec des posts, soit que j'ai déjà publié le matin ou la veille, donc merci d'avoir regardé le travail que j'ai fait auparavant, soit pour des articles, alors je ne parle pas de podcasts, hein, qui sont nouveaux, etc., qui sortent, qui effectivement peuvent attirer ma curiosité, ouais. Mais sur des informations que je connais déjà. Et puisque, a priori, je fais une veille tous les jours, si je n'ai pas l'information, c'est qu'elle ne m'intéresse pas. Donc, être tagué des dizaines de fois comme ça tous les jours, pour moi, c'est plus du parasitage qu'autre chose. Mm-hmm. Mais bon, du coup, je mute les gens, je mute les conversations, je mute tout pour voir enfin ce que j'ai envie de voir. Parce qu'a priori, ma communauté est qualifiée et m'envoie l'information qui m'intéresse.
Alors merci Fabienne, c'est intéressant parce que ton retour, je pense qu'on le vit tous. Hein. Moi, je reçois quotidiennement de nombreuses sollicitations pour des likes et autres à partir du moment où vous avez une caisse de résonance.
C'est marrant parce que c'est je ne regarde pas ta timeline et je ne fais rien avant. En revanche, je n'hésite pas à te réclamer like et un retweet.
Oui, il y a un terme qu'on n'a pas utilisé encore, c'est celui de la majorité silencieuse sur les réseaux sociaux. Ouais. Et pour moi, la majorité silencieuse sur les réseaux sociaux, c'est peut-être celle qui a le plus d'intérêt, c'est-à-dire celle qui ne va pas liker, d'accord, mais qui va lire votre contenu. On le voit tous, hein, quand vous diffusez un article, Yann, toi, je te suis beaucoup, Jonathan aussi, tous les trois d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Mais quand je lis, quand vous diffusez des informations, je vais les lire derrière. Je les like, mais d'autres ne les like pas, qui ne signifie pas que ces articles ne vont pas être lus. Et la majorité silencieuse, moi, je trouve qu'on n'y prête pas suffisamment d'attention.
Il y a une autre forme de like qu'on sous-estime, c'est celle de la personne qu'on rencontre dans un événement ou avec qui on parle au téléphone ou qu'on rencontre de façon tout à fait fortuite et qui vous dit « Ah, j'ai lu votre article, j'aime beaucoup. »
Oui,
alors là, rien que ça, ça vous met heureux pour la journée.
C'est
ces gens-là qu'on écrit. On n'écrit pas pour des likes.
Oui, je te rejoins complètement, Yann. En fait, on se rend compte, mais c'est avec le temps, que je ne sais pas quelle est la proportion. J'ai trouvé des chiffres, c'est difficile, sur la veille. Mais sur Twitter, on sait que 80% des gens veillent. Donc, est-ce que sur LinkedIn, c'est la même proportion? Et qu'il y a combien? On est très peu, finalement, à publier, à poster de façon native ou à reposter du contenu. Mais c'est vrai que moi, j'ai compris la pertinence des réseaux sociaux et de LinkedIn quand des gens m'interpellaient effectivement dans des événements ou m'apportent des missions alors que je ne les ai repérées, mais de nulle part. Et évidemment, eux ont repéré et font de la veille silencieuse sur LinkedIn et t'apportent du job, t'apportent des citations, des participations à des bouquins, etc., mais tu ne les as pas identifiés avant.
Mmh. Je vais revenir sur le pod hein, pour les tags. Bien sûr, il y a un côté absolument complètement irritant, des gens qui te taguent sur quelque chose pour utiliser ton... En fait, c'est même pire que simplement ennuyer les gens, parce qu'en fait, c'est fait dans un consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, dans le but d'utiliser le réseau de la personne que je vais taguer pour pouvoir bénéficier de sa visibilité sur un sujet pour lequel elle n'est pas impliquée, voire même où elle pourrait être concurrente. Bon, c'est-à-dire, je fais un truc, je ne demande même pas si elle est d'accord, je m'intéresse pas à savoir ce qu'elle en pense, mais je vais la taguer parce que comme elle connaît des gens, ça va me permettre d'atteindre. Donc c'est de l'opportunisme, c'est de la goujaterie au plus haut niveau, quoi. C'est comme si tiens Mohamed, bon j'en ai rien à foutre de toi, mais passe-moi tes clients, tiens, donne-les-moi. Donc c'est le comble de la goujaterie.
Ou de la méconnaissance, comme je disais tout à l'heure, oui. la méconnaissance, je pense qu'il y a certain nombre de personnes qui le font, mais sans connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, et ça c'est important à garder en tête. Moi je trouve que toutes les boîtes devraient envoyer leurs collaborateurs en formation social media et pour comprendre ce que tu es en train de dire, Stéphane, parce que Yann, Stéphane Munier, tu as deux personnes, Stéphane et Yann, que j'apprécie au plus haut niveau pour leur expertise. Donc, il y a cette méconnaissance surtout des réseaux sociaux et de l'usage des réseaux sociaux, et c'est ce qui fait la différence entre une personne qui va tenir compte de ce que tu dis
Je reviens sur cette histoire de pod. Il y a deux façons de taguer les gens. La première, c'est parce que je m'intéresse vraiment à ce qu'elles en pensent. Je vais demander à j'en sais rien, que ce soit à Fabienne, Jonathan ou on a parlé de Bruno, par exemple, c'est des gens qu'on tague souvent. C'est souvent les mêmes, d'ailleurs, parce que c'est des gens qu'on aime bien et c'est des gens dont les avis comptent. Si je leur pose une question, c'est pas seulement pour qu'ils relaient mon poste, c'est pour qu'ils me donnent leur avis aussi, parce que ça va contribuer à enrichir la réflexion. Peut-être que la prochaine fois, j'écrirai quelque chose un peu différent en fonction de ce qu'ils m'ont dit. Mmh. Donc ça, enfin, j'estime que ça, c'est une façon d'utiliser cette technique qui est correcte, parce que je m'intéresse aux gens. Et surtout, je vais passer beaucoup de temps, et quand je dis beaucoup de temps, c'est vraiment beaucoup de temps, à répondre individuellement à chacun des commentaires. Ne serait-ce que pour dire merci.
Mmh. En fait, déjà beaucoup de temps. Ce que veut dire Yann, c'est qu'en fait, je pense que le seul moyen que le pod ou les tags soient acceptés, c'est qu'il y a une démarche de sincérité. Ça veut dire que le fait d'interpeller est authentique et que cela permet de répondre. Si c'est fait pour, comme disait Yann, que c'est fait dans une démarche où je veux gagner la visibilité, ça... hors de question qu'on promouvoie ce contenu.
Cette idée, cette notion de gestion des communautés est encore pas suffisamment valorisée. Alors que, on le sait parce qu'on passe un temps fou justement à gérer nos communautés, à avoir de la qualification, à avoir de la formation et derrière à rédiger des articles ou avoir des missions, faire des conférences. Donc derrière, c'est notre source. Et j'avais appris chez Accor qu'il y avait une fille qui avait un job de gestionnaire des communautés. C'est fou parce qu'on en arrive à faire un job, parce qu'effectivement, c'est un savoir-être et c'est un savoir-faire. Et comme tu le dis, Mohamed, tout un chacun dans les entreprises, en allant sur LinkedIn, devrait avoir un minimum de formation par rapport à cette courtoisie. Pour moi, c'est de l'éducation. Tout simplement, c'est même pas pour apprendre à avoir le béaba du don d'abord, parce que d'abord en communication, pas en marketing, mais en communication, on donne avant de recevoir et on donne de la valeur sans rien attendre. Et ça, franchement, c'est pas encore intégré.
Tu peux regarder quelque chose de qui est complètement incroyable. On en parlait, Yann, rappelle-toi, chez Media Aces, à l'époque, c'était le sujet des chartes de réseaux sociaux dans les entreprises.
Ouais.
Et aujourd'hui, elles ont disparu, ces chartes. C'est-à-dire qu'on laisse tout le monde faire ce qu'il veut, comme il veut, prendre la parole. Tous ces gens-là ne sont pas formés, donc manque de formation, pas de chartes. C'est un petit peu la... Il y a une espèce de foire d'empoigne, c'est un peu le Far West.
Ils prennent la crête, tu sais, c'est-à-dire que ces gens qui ont un boulot et un salaire, pour le coup, parce que, enfin, je veux dire, pour certains, on a le salaire qu'on a parce qu'on est sur les réseaux et qu'on travaille dessus, donc on n'a pas forcément un salaire d'ailleurs, ça peut être des missions, mais ces gens qui travaillent plusieurs heures par jour dans leur bureau, évidemment, ne sont pas connectés. Et donc, quand ils déboulent à 18h après avoir fait leur taf et touché leur salaire, effectivement, ils prennent un petit peu la crête et ce qui émerge des réseaux sociaux. Et ils prennent, alors justement, entre guillemets, les influenceurs, ils prennent les plus gros buzz, ils prennent des tweets à gauche et à droite. Enfin bref, ils ont pas beaucoup de notions d'éducation sur les réseaux sociaux parce qu'ils y sont très peu et que c'est empirique, le numérique et les réseaux sociaux.
Yann, est-ce qu'on ne donne pas trop de place à LinkedIn aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un effet MeToo?
On donne trop de place aux outils. J'ai expliqué tout à l'heure, donc je vous invite à lire le livre de Jonah Berger, Contagious, qui explique justement que les médias sociaux et à l'intérieur de l'Internet, qui représentent finalement une partie minime du bouche à oreille. Alors, je sais, c'est contre-intuitif et chacun me dit oui, mais c'est pas vrai parce que, en fait, on parle beaucoup de Twitter, on parle beaucoup de Facebook. Mais en fait, si je connais tout, par exemple, des tweets censurés de Monsieur Trump, par exemple, et je sais ce qu'il y a dedans, et je peux même les répéter si tu veux, et pourtant je ne les ai pas lus sur Internet ni sur Twitter, c'est simplement parce que les masses médias se sont mis à recopier Twitter, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, c'est comme ça, et ils doivent trouver ça bien, je suppose, et du coup, ils donnent une vision complètement déformée des médias sociaux qui restent des médias affinitaires, Fred Cavazza l'a très bien démontré, et même de plus en plus affinitaires, des caisses de résonance, des chambres d'écho, même des détracteurs, mais bon, et ce sont des chambres d'écho, mais et qui surtout des médias affinitaires et communautaires. Donc oui, on donne trop de place à LinkedIn. Encore une fois, il n'y a plus que lui dans le B2B, donc forcément, c'est difficile d'utiliser OpenBC qui n'existe plus ou Six Degrees ou je sais pas lequel qui existait avant pour pouvoir faire la même chose. Il n'y a plus qu'un, donc on est obligé d'aller sur LinkedIn et ça devient une fin en soi. Et plus les choses deviennent une fin en soi, plus il faut prendre du recul et se demander ce qu'on y fait. Parce que si on n'est pas capable de répondre à cette question, ouais, eh bien, ben, il faut aller ailleurs. Ouais. Cette question, elle a été posée d'ailleurs de façon assez pertinente et impertinente par Forrester dans un rapport, mais qui n'était pas dédié au B2B, il était dédié au B2C. Et qui s'appelait, qui est sorti là au mois de mai et dont le titre est en français en substance. Oui, Marc, vous pouvez divorcer des médias sociaux. Je suis allé sur Visionary Marketing, il y a toute une analyse de ce rapport. Bon, et c'est son analyse, Jessica Liu de Forrester, était dédiée au B2C parce que là, effectivement, on frise le summum de l'humanité, c'est-à-dire des marques qui sont là, mais qui répondent à personne, qui ne savent pas pourquoi. Je suis sûr. On leur fait un questionnaire pour leur demander pourquoi ils sont sur les médias sociaux, ils sont incapables de répondre parce qu'il y a une telle pression par les pairs que si on n'y est pas, on passe pour un idiot et du coup, ils passent peut-être à côté justement une bonne idée.
Donc toi, Yann, tu dis qu'on peut s'en passer ou en tout cas on peut diminuer la part que représente LinkedIn dans sa communication, dans son marketing.
On peut se passer de n'importe quel outil à partir du moment où j'en ai pas le besoin. Voilà. Ouais. Si j'en ai pas le besoin ou si je n'en ai pas l'utilité ou si je suis incapable de comprendre comment ça fonctionne, il faut s'en passer. Si je suis un commercial bourrin qui ne comprend rien à la puissance du networking et à la façon de vendre en réseau, c'est pas la peine de perdre mon temps sur LinkedIn. Quoi. Oui, mais je vais acheter de la publicité sur Sales Navigator. Et après, la question qu'on a en général après, c'est, bon, j'ai acheté Sales Navigator, mais comment je peux augmenter mon taux de clic, mon taux de machin, enfin,
ouais, ouais.
Bon, je crois qu'il y a, en tout cas, en vente complexe, hein, parce que attention, B2B, il ne faut pas tout mélanger, hein, il y a des marchés de masse aussi, hein. Marché de masse, ça, c'est complètement différent, mais en vente complexe, bon, ouais, peut-être reprendre un peu de recul, redécouvrir le comment dire la nécessité du contact. En ce moment c'est un peu compliqué, mais on a des outils aussi pour continuer et poursuivre le contact, et puis replacer l'outil à l'intérieur de cette stratégie de contact et non pas l'inverse.
Fabienne, toi tu veux peut-être rebondir là-dessus sur la place qu'on donne à LinkedIn aujourd'hui, s'il n'y a pas un effet MeToo, j'y suis parce que tout le monde y est,
non, je
publie parce que tout le monde publie.
Pas publier, c'est pas si simple, donc non, mais en revanche, y être parce qu'il faut y être.
Voilà, par rapport à ce qu'on voit, ça paraît quand même assez simple quand on voit la qualité aujourd'hui de ce qui est publié sur LinkedIn sans fond, sans rien.
Ah, mais quand même, ça prend du temps. Tu sais, quand tu as un boulot, enfin, je veux dire, on connaît plein de gens. Je pense à des environnements de finance ou de droit, etc. C'est quand même des copains qui n'ont pas un temps fou à consacrer.
Oui, bien sûr. Ouais.
Même à LinkedIn, tu vois. Enfin, je me sens un ovni à côté d'eux. Je me sens presque même parfois ridicule. Pour ma part, moi, le networking, j'en ai toujours fait. Donc, finalement, les réseaux sociaux sont une application supplémentaire. Mais effectivement, fondamentalement, j'aurais d'autres sources. Ce qui me gêne, moi, sur cette évolution, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, si tu n'as pas connaissance de ces arcanes d'automatisation et d'algorithme de LinkedIn, ben, je pense que tu n'es pas très bien sans être un pro et un expert pour publier correctement, que ce soit et au niveau de la forme et au niveau du fond, par rapport à l'URL qui soit native et qui soit pas externe à LinkedIn, etc. Tu es obligé d'avoir un minimum de connaissances et forcément, ça dénature un petit peu tes publications et ton côté passionnel et spontané. Donc, tu es obligé de réfléchir un peu différemment. Mais pourquoi pas, après tout, il y a un code et effectivement, comme tu le disais, Yann, il y a un business derrière, donc il faut bien que LinkedIn assure ses business. Mais moi, j'aurais du mal à m'en passer parce que tous mes jobs, toutes mes missions me viennent des réseaux sociaux aujourd'hui et depuis 10 ans.
Quoi, enfin,
je suis à Lyon, donc tu vois, j'ai aucun taf à Lyon.
Jonathan, toi, tu en penses quoi? On peut s'en passer à court et à moyen terme?
Encore à moyen terme, sur un réseau social B2B, c'est très difficile de se passer de LinkedIn, puisque bon, on voit que LinkedIn existe depuis plus de 15 ans. Mais après, on est quand même dans un écosystème qui évolue rapidement. Si je vous disais, il y a 3 ans que TikTok allait émerger, personne n'aurait cru. Donc, c'est probable, même si je pense que c'est encore, on est encore dans le domaine de l'hypothèse. Après, je dirais que la plateforme évolue. Donc, on a la sortie des lives, la création des événements aussi bien chez les profils que chez les entreprises, les réactions ou la mise en avant des hashtags, ce qui fait que les gens continuent à rester sur LinkedIn puisque il y a des nouvelles fonctionnalités, certes, qui copient les autres fonctionnalités des autres réseaux sociaux, mais du coup, cette nouveauté incite les personnes à rester fidèles. Mais après, je dirais que le principal problème à long terme, c'est que c'est le fonctionnement du réseau social de LinkedIn comme sur tous les autres réseaux sociaux comme Facebook, à part Snapchat et TikTok. C'est qu'on est dans un modèle top-down. Du coup, on va trop, ce modèle vertical, on va trop accorder d'importance à celui qui va poster et beaucoup moins à ceux qui vont échanger. Donc, comme la démarche communautaire, comme le disait Yann. Et donc, ça peut être une menace. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il n'y a plus d'échange de fonds, plus de débats. On est plus dans cette espèce de polémique pour échanger. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres réseaux sociaux plus sur des messageries. Moi, je pensais aussi à des échanges de fonds parce qu'il y a un réseau social qui était réservé seulement à des personnes exclusives. Je pense à Clubhouse. Et en fait, ça s'écoutait par podcast et les gens pouvaient s'échanger. Et ça, je pense que certains réseaux de niche pourraient émerger à terme. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il n'y a plus le modèle vertical des réseaux sociaux n'est plus exclusif. Et je pense qu'il y a plusieurs types d'audiences maintenant. On a des audiences qui préfèrent l'écoute, des audiences qui préfèrent regarder des vidéos. Et donc, il y a plusieurs moyens d'échanger avec sa communauté.
Non, mais je pense qu'effectivement, moi, pour moi, l'avenir, c'était plus que ces réseaux, effectivement. C'était plutôt le côté conversationnel, les WhatsApp et les Messenger et tout ça, du ping-pong d'échange. Alors, c'est peut-être moins un réseau social. Je ne sais pas si on peut l'intégrer dans la typologie. Mais en tout cas, on a un panel de plusieurs réseaux sociaux, en fait. Hein, et on prend l'ADN de chacun avec, on a bien compris l'identité de chacun aussi. Donc ça, on a quand même le choix encore. On a la liberté d'en choisir et d'en faire une sélection perso.
Je voudrais rebondir. Mon propos, surtout celui de Forrester, n'est pas un propos qui s'adresse aux personnes. Hein, parce que, bon, c'est un autre sujet. Ça, c'est un sujet plus personnel. En tant que personne, je ne vous conseillerais pas, et je ne conseille d'ailleurs jamais, un élève ou une personne en reconversion à se retirer de LinkedIn. Au contraire, si elle n'est pas sur LinkedIn, elle n'existe plus. Donc, il faut absolument, pour une personne, être sur LinkedIn et, si possible, être visible. Donc, c'est pas le sujet de la critique. Pour moi, le sujet de la critique, il est plus autour des marques et de ce qu'elles essayent de faire sur les médias sociaux. Donc, c'était plus un aspect d'entreprise. Alors, après, est-ce qu'on peut réaliser une démarche de networking, même pour une personne, dans le cadre, par exemple, d'une recherche de travail, tiens, par exemple, qui est quand même le centre du sujet sur LinkedIn? La réponse, c'est un énorme oui. Bien sûr, on peut le faire. Et même, d'ailleurs, il y a une excellente méthode, la méthode de Daniel Porot, que je recommande chaudement. LinkedIn est un moyen d'en accélérer l'efficacité, mais on peut très bien s'en passer. La méthode de Porot, c'est la méthode PI, la méthode passion-intérêt-emploi, qui consiste justement, et ça marche exactement comme la vente en réseau, hein, c'est pareil. Ça va consister à multiplier les rencontres avec des personnes et en rebondissant d'un lien à un autre. Et à chaque fois qu'on va voir une personne, on va lui demander « Est-ce que vous pouvez me recommander à 3 autres personnes ?» Et vous avez compris que assez rapidement, vous allez avoir une augmentation exponentielle du nombre de contacts que vous allez avoir.
Ouais.
Au lieu de l'avoir par une recommandation virtuelle par LinkedIn, vous avez par une recommandation d'une personne au travers de, bah, au travers d'une présence, d'une introduction par mail ou par téléphone. Voilà, ou une simple recommandation orale.
Okay.
Voilà. Et ça marche très très bien.
Mmh. Alors,
LinkedIn va permettre d'automatiser ça, enfin d'automatiser. Il va permettre d'y arriver plus facilement.
Mmh. Bon, en tout cas,
il va permettre de, mais, éventuellement de trouver soi-même ses cibles. Mais voilà, mais donc tout est possible. Si c'est possible en RH, c'est possible également en vente. Hein. Il y a une méthode qui devient en vente complexe. Encore une fois, on ne parle pas là du bas du marché PME, mais du haut du marché, du haut du marché B2B. Ah. C'est la méthode ABM, hein, que tu connais bien, Account-Based Marketing, qui est vraiment la méthode en vogue depuis quelques années et qui va, à mon humble avis, se développer de façon majoritaire dans les mois et années qui viennent pour remplacer l'inbound marketing ou plutôt venir en complément de l'inbound marketing sur le haut de marché B2B. Et cette démarche de, comment dire, d'ABM est une démarche de vente en réseau, hein, puisque c'est dans un objectif, il est de renverser l'entonnoir de vente en commençant par la personne qu'on cherche, le décideur, le ou les décideurs, parce que c'est en haut de marché, il y a souvent plusieurs qu'on cherche à influencer, et de tisser un lien, de tisser un véritable réseau autour de ces personnes-là, en multipliant les contacts à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise quand il y a des intervenants extérieurs. Donc, c'est LinkedIn a un rôle à jouer. Non, je ne conseille pas d'en partir. Je conseille simplement de réfléchir avant d'y mettre les pieds.
C'est la question que j'allais vous poser parce qu'on arrive au terme de ce podcast, de l'émission. D'ailleurs, entre parenthèses, tu as beaucoup parlé de ventes complexes, hein, les key account managers notamment, et puis toute la partie marketing ABM là-dessus. Je consacrerai une émission sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire intéressantes sur le futur de la vente et du marketing en B2B. On va clôturer cette émission. Et on va rester très positif parce que, comme le disait Fabienne tout à l'heure, LinkedIn nous apporte beaucoup de reconnaissance. On n'est pas d'accord avec tout. On n'est pas d'accord forcément avec ces algorithmes. On n'est pas d'accord quand notre poste ou nos posts qui sont diffusés sur LinkedIn sont diffusés uniquement à une partie de notre communauté. Alors qu'on a apporté plus d'un millier de membres sur le réseau, que 10% de ces membres vont voir nos posts. Tout ça, on le rejette en bloc malheureusement, mais à côté, effectivement, on regarde le verre à moitié plein parce que LinkedIn fait notre bonheur sur pas mal d'autres sujets. Alors, je vais terminer cette émission en vous posant une question chacun. Qu'est-ce que vous appréciez le plus sur LinkedIn? Qui veut commencer? Fabienne.
Ah oui, parce que ça me passionne. Moi ce que j'adore, c'est l'accessibilité avec des expertises. Alors, il y a une diversité. Alors, même si on reste dans nos bulles, hein, ça, j'en suis maintenant consciente. J'ai compris qu'il fallait rester avec quand même des niveaux de valeur et d'éducation qui soient similaires, sinon ça ne matche pas. Mais en tout cas, sur la diversité et le niveau d'expertise et de compétences, j'aurais jamais pu trouver ça dans ma bonne ville, et c'est uniquement par les réseaux, par LinkedIn et par Twitter, c'est une évidence. Donc puis les jobs et les missions que j'ai, encore une fois, ça vient uniquement des réseaux sociaux, donc c'est une exaltation intellectuelle et sociale absolument fabuleuse au quotidien.
Super.
Grâce à ce réseau.
Merci beaucoup Fabienne. Jonathan, à toi.
Alors moi, je dirais que c'est plus l'univers de LinkedIn, puisqu'on est dans un peu un univers safety où les personnes ne sont pas anonymes. Donc du coup, les personnes ne sont pas anonymes. On est plus bienveillant sur LinkedIn par rapport à Twitter où c'est plus polémique. Donc, je souligne plutôt la qualité des commentaires. Ouais. Je trouve que c'est vraiment sur LinkedIn que j'arrive à avoir vraiment les commentaires les plus enrichis, où on peut, disons, échanger avec des arguments, des contre-arguments, chose qu'on ne retrouve plus sur les autres réseaux sociaux où on a plus une polarité. Et donc, non, c'est vraiment, il y a encore du fond sur LinkedIn et on tâchons de le garder.
C'est une très très bonne chose. Yann ?
Pour moi, c'est une source inépuisable de rencontres. Voilà, et c'est un but en soi. Mm-hmm. Parce que de ces rencontres naissent des projets, naissent des bons moments tout bêtement. Des créations de contenu, des échanges, des projets, et puis bien entendu du business, parce que ça marche comme ça. Et ça marche comme ça aussi en dehors de LinkedIn, et LinkedIn est un outil très, très...
Je vous remercie Fabienne, Jonathan et Yann pour la qualité.
Merci beaucoup, c'était très riche, je crois.
C'est très, très intéressant et très riche, et je suis sûr que notre public, nos auditeurs là, sur B2B Stories sauront apprécier la qualité et la pertinence de ces échanges et votre expertise. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt.
Ouais.
Je l'espère pour une nouvelle émission. Merci beaucoup à tous les trois. Salut.